Vous écoutez, on lit pour vous.
Nordastello, la firme qui veut mener la décarbonation industrielle. Un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Après avoir tourné la page de Roche en 2022, la firme de génie conseil Nordastello s'est réinventée avec une grande ambition. Devenir le leader mondial en décarbonation industrielle et en productivité durable. Une stratégie qui repose sur des gestes concrets, mais qui se déploie dans un contexte moins favorable. Devenir un leader mondial en décarbonation industrielle ne se fait pas du jour au lendemain. Chez Nordastello, cette ambition guide les décisions depuis 2019. La première étape, ça a été d'y croire, raconte le PDG Alex Brisson. Puis, de faire en sorte que nos gens y croient aussi. Dans l'industrie, la solution consiste encore trop souvent à démolir pour repartir à neuf. Alex Brisson donne l'exemple du pont Champlain. Le pont Champlain, dit-il, on ne l'a pas entretenu. On a été obligé de le prendre, de le jeter aux poubelles, puis d'en construire un nouveau. Imagine le dommage au niveau planétaire. C'est autour de ce constat que Nordastello a bâti son modèle d'affaires à impact. En misant sur la maintenance préventive et prédictive des infrastructures existantes, l'entreprise certifiée B Corp cherche à prolonger leur durée de vie. Si je suis capable de prolonger un actif de 5, 10 ou 15 ans, je suis capable de traduire ça en consommation d'énergie et en tonnes de CO2 évitées, explique le patron. Chaque projet intègre désormais des indicateurs environnementaux précis. On arrive avec de la donnée normée, qui n'est pas contestable, précise-t-il, une donnée que l'entreprise compte bien exploiter et, ultimement, monétiser. Avancer progressivement. La firme construit sa crédibilité projet par projet. Elle travaille notamment avec Rio Tinto sur des projets pilotes en décarbonation industrielle et avec BC Hydro sur la technologie V2G qui permet aux véhicules électriques de redistribuer de l'énergie au réseau. Elle structure sa croissance autour de plans triennaux et d'objectifs annuels. « On l'attaque en morceaux », résume Alex Brisson. Nordastello commence aussi à intégrer l'état de santé et la durabilité des actifs dans les revues diligentes d'acquisition, à une époque où le reprenariat a la cote. Cet angle, encore peu exploité, l'amène à travailler avec les banques et d'autres partenaires financiers. Le contexte n'est pas idéal. Le désengagement climatique de l'administration Trump a créé un effet d'entraînement. Certaines entreprises revoient leurs objectifs environnementaux, d'autres déplacent leurs priorités. Le gouvernement du Québec n'est pas épargné par la critique d'Alex Brisson. Malheureusement, il y a un recul. Lâche celui qui est en nomination dans la catégorie « Grande entreprise au prix PDG vert ». Malgré tout, Nordastello maintient le cap. On prend nos engagements par étapes. On est totalement transparent et on ne recule sur rien. La firme collabore avec des clients et des partenaires qui continuent d'y croire, comme la Caisse, qui est actionnaire minoritaire de l'entreprise depuis mars 2025. Des retombées pour le Québec. Si la stratégie fonctionne, les retombées pourraient dépasser largement l'entreprise. Nordastello développe au Québec une expertise en décarbonation industrielle qu'elle pourra exporter partout dans le monde. Quand on a pris cette orientation, on était précurseur, évoque M. Brisson. Aujourd'hui, on se retrouve dans une niche où il y a peu de compétition. La firme attire également des talents qui souhaitent contribuer à un projet de société porteur de sens. Les gens viennent travailler chez nous à cause de ça, souligne le dirigeant. Grand-père depuis 2 ans et demi, Alex Brisson ne cache pas ce qu'il anime derrière les chiffres. On ne veut pas être la meilleure entreprise au monde. On veut être la meilleure entreprise pour le monde, résume le PDG. Reste à voir si cette vision saura s'imposer à l'échelle internationale. Nordastello, en bref, fondé en 1963 sous le nom de Roche. siège social à Québec, près de 900 employés, revenu annuel de 150 millions de dollars, des projets réalisés dans plus de 50 pays, certifié B Corp depuis 2022. C'est la première grande firme d'ingénierie canadienne à obtenir cette certification. C'était Nordastello, la firme qui veut mener la décarbonation industrielle, un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
L'amitié fantasmée. Un texte de Florence Dancause, paru le 5 avril 2026 dans La Presse. Le groupe d'amis stéréotypés que l'on voit à la télévision, à la Sex and the City ou à la Girls, se réunit très souvent autour d'une bière ou d'un brunch et se raconte ses péripéties. Lorsqu'on compare sa vie sociale à ce modèle, on peut se sentir inadéquat. Lorsqu'on entre dans l'âge adulte, le cercle social tend à diminuer. On entame une carrière, parfois on déménage, on a des enfants. Bref, les responsabilités augmentent et le groupe d'amis du secondaire ou de l'université n'est souvent plus aussi présent qu'avant. Au Canada, les personnes âgées de moins de 25 ans peuvent compter environ 24 amis, selon des données de Statistique Canada de 2013. Leur nombre diminue avec l'âge. 20 amis pour les 25 à 34 ans, 19 pour les 35 à 44 ans, 15 pour les 45 à 54 ans et 11 pour les 55 à 64 ans. Malgré ce groupe d'amis moins élargi, le nombre d'amis proches reste sensiblement le même, 5 pour les moins de 35 ans et 4 pour les plus de 35 ans. Comment décrire l'amitié à l'âge adulte? Comme étant compartimentée, avance Tracy Vaillancourt, professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Plutôt que de compter sur un cercle très soudé, on a des amitiés individuelles qu'on voit dans des contextes particuliers, souvent en jonglant avec un horaire chargé. On prend des cafés avec une amie de longue date, on croise un autre aux entraînements de soccer de notre progéniture, on court le midi avec un collègue. Malgré ces liens amicaux, plusieurs se sentent seuls et pas vraiment connectés aux autres, mentionne la professeure Tracy Vaillancourt. En 2024, 14 % des Canadiens de 25 à 54 ans disaient se sentir seuls, selon Statistique Canada. Les cercles idéalisés. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos d'amis qui organisent des soirées ou même des week-ends dans des chalets pullulent. C'est facile de sentir qu'on n'appartient à nulle part, met en lumière l'autrice et conférencière Karine Côté-Andretti, qui a écrit « Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés ». La pression vient aussi de la culture populaire. On pense à la série Friends, où Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey sont toujours réunis, ou à Sex and the City, qui met en scène des amis qui se soutiennent à travers leurs déboires affectifs autour de brunch. La satisfaction que les gens ressentent face à leur cercle social croît avec le nombre d'amis. C'est ce qu'a démontré un sondage du Survey Center on American Life en 2021. Un filet social plus grand pour expliquer ce haut niveau de satisfaction pointe la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Par exemple, si quelqu'un vit une rupture, chaque personne du groupe d'amis peut se relayer pour aider et apporter du réconfort, explique-t-elle. Un gang est aussi synonyme de culture commune et d'un sentiment d'appartenance, ajoute Karine Côté-Andretti, qui croit qu'on romantise un peu trop ces clans serrés. Des conflits peuvent survenir. Il faut aussi naviguer entre les différentes personnalités et attentes du groupe, décrit-elle. La charge mentale, que ce soit l'organisation d'activités ou simplement le maintien des liens, peut tomber sur une seule personne. Dans Friends, c'est clairement Monica. Qu'est-ce qui arrive si elle décide de se désengager, puis de ne plus ouvrir les portes de son appartement, donne-t-elle en exemple. S'engager dans l'amitié. Les gens se comparent à quelque chose qui n'est pas la norme, expose Tracy Vaillancourt. Le sentiment de solitude vis-à-vis de nos amitiés pourrait moins être causé par leur quantité que par des besoins non comblés. De quoi a-t-on réellement besoin? Des amis qui sont là pour nous, qui nous soutiennent et qui nous font nous sentir bien, relève la professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Peu importe leur nombre, fait-elle valoir. Selon Karine Côté-Andretti, On devrait davantage célébrer les amitiés individuelles. Celles-ci sont habituellement plus profondes et intimes et ne sont pas moins satisfaisantes. Envie de se sentir plus connecté à ses amis? Il faut de l'engagement et peut-être reconsidérer la place qu'on leur accorde, souligne l'autrice. Dans son livre paru en 2024, elle proposait justement de remettre l'amitié au cœur de nos vies et d'oser avoir des projets de vie avec eux, et pas seulement avec notre conjoint ou notre conjointe. Parce que même dans Friends, les amis sont considérés comme un passage temporaire avant de fonder sa famille nucléaire, évoque Karine Côté-Andretti. Moi, l'amitié, c'est une saison dans laquelle j'ai envie de m'enraciner à long terme, témoigne-t-elle. Nous sommes nostalgiques de nos gangs d'amis? Rien ne nous empêche d'en créer un. On peut s'investir dans le comité social au travail ou de renouer avec d'anciens groupes, souligne la psychologue Léonie Lemire-Théberge. Autre astuce, on ritualise les rencontres amicales en se voyant par exemple chaque mois autour d'un repas. Or, on ne doit pas dévaloriser ses relations d'amitié avec les gens que l'on voit au quotidien, mais qui sont plus superficielles. Ça fait partie de notre communauté et de notre village, illustre Karine Côté-Andretti, qui croit que les gens sont nombreux à désirer ces contacts plus fréquents. En 2022, c'était un peu moins d'un Canadien sur cinq qui voyait des amis au cours d'une journée, alors qu'en 1986, c'était le cas pour près d'un Canadien sur deux, d'après Statistique Canada. En fin de compte, qu'on soit plutôt une personne de gang, d'amitié individuelle ou d'un mélange des deux, chaque type d'amitié nous apporte ses richesses, rappelle la psychologue Léonie Lemire-Théberge, qui explique que ce qui compte vraiment, c'est de ne pas être isolé. C'était « L'amitié fantasmée », un texte de Florence Dancause, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Plus on est, mieux c'est? Pas toujours. Un texte de Marie-Chantal Ledoux, paru le 28 avril 2026 dans la presse. Les activités de Louis prennent de l'ampleur. Il a enfin obtenu l'autorisation d'embaucher une personne de plus, une 13e au sein de son équipe de 12. Une victoire bien méritée. Le quotidien devrait s'en trouver allégé. Pourtant, quelques semaines plus tard, il observe quelque chose d'inattendu. Ses rencontres d'équipe ne sont plus tout à fait les mêmes. Les discussions sont plus longues, moins fluides. Certains parlent moins. D'autres prennent plus de place. Surtout, de petits sous-groupes commencent à émerger, presque naturellement, sans qu'il n'ait rien changé à sa façon de gérer. Louis n'a pas un problème de personne. Il a un problème de nombre. Le nombre de liens entre les participants. Lorsqu'il est question de travail d'équipe, les chiffres comptent beaucoup plus qu'on ne le pense. Dans bien des organisations, la taille des équipes se décide à l'intuition, au fil des besoins opérationnels et des occasions. On ajoute une personne sans consciemment en mesurer l'effet réel sur la dynamique du groupe. Il existe une formule toute simple pour comprendre ce qui se joue. Le nombre de liens possibles dans un groupe se calcule ainsi. N, parenthèse N-1, fermez la parenthèse, divisé par 2, où N représente le nombre de personnes. Il doit être multiplié par le nombre de personnes moins 1, car une personne ne peut pas avoir un lien avec elle-même, et ensuite être divisé par 2, car bien que le lien soit bidirectionnel, il ne s'agit que d'un seul lien entre deux humains. Chaque lien correspond à une relation entre deux personnes. Ce n'est pas le nombre de personnes qui complexifie une équipe, mais bien le nombre de liens entre elles. Sur le terrain. Dans un groupe de deux personnes, il n'y a qu'une seule interaction. À 4 personnes, déjà 6. Et à 8, 28 interactions. On ne double pas la complexité, on la multiplie. Mathématiquement, on parle d'une croissance quadratique. Retenons que même si ce n'est pas exponentiel, c'est suffisamment rapide pour devenir difficile à gérer bien avant qu'on s'en rende compte. Et combien devrions-nous être? Il n'existe pas de nombre magique en soi. Il s'agit plutôt d'estimer le nombre de personnes requises en fonction des objectifs ou d'ajuster les objectifs à la taille réelle de l'équipe. Une équipe efficace se situe autour de 7 ou 8 personnes. Ce n'est pas un chiffre magique, mais plutôt un point d'équilibre ou une zone optimale. Un groupe de cette taille permet une diversité de points de vue, des échanges riches, une participation encore relativement équilibrée, de la créativité. Au-delà, les conversations deviennent plus difficiles à orchestrer. Les silences s'installent chez certains, les alliances informelles apparaissent et la responsabilité se dilue. Et le seuil? Un seuil particulièrement intéressant se situe autour de 12 à 13 personnes, puisque le simple fait d'ajouter une 13e personne fait passer le nombre d'interactions de 66 à 78, soit 12 nouvelles relations à gérer pour une seule personne de plus. Ce saut est rarement perçu consciemment, mais ses effets sont bien réels. C'est souvent à partir de ce moment que le groupe commence à se fragmenter. Création de sous-groupes, conversations parallèles, perte de cohésion globale. Le groupe ne disparaît pas, mais il change de nature. Et même les membres se surprennent à se dire « Ben voyons, c'est plus comme avant ». On ne parle plus vraiment d'une équipe, mais d'un ensemble de sous-équipes qui coexistent. Établir la taille du groupe en fonction de la nature du travail. Faut-il alors éviter les grandes équipes? Non, mais il faut comprendre que la taille d'un groupe doit être établie selon la nature du travail à accomplir. Pour des activités qui demandent de la créativité, des prises de décision, des échanges en profondeur, un groupe de 5 à 8 personnes est généralement optimal. On peut parfois aller jusqu'à 10 ou 12, mais chaque ajout augmente la complexité et exige une gestion beaucoup plus structurée. Pour les équipes plus grandes, une autre logique doit s'imposer. Plutôt que de chercher à tout faire en grand groupe, il devient plus efficace de scinder les participants sous équipes, favoriser les échanges en petits groupes, regrouper les contributions. Le grand groupe conserve alors un rôle différent. Partager de l'information, aligner, mobiliser, mais les interactions riches, elles, se produisent ailleurs. En design des structures organisationnelles. Cette réflexion est particulièrement pertinente quand on pense aux structures organisationnelles. On me demande souvent quel devrait être le ratio gestionnaire-employé. La réponse est nuancée. Tout dépend de la nature des activités, opérations ou expertise, du rôle confié au gestionnaire et du degré d'autonomie attendu des équipes. Pour un comité de gestion, une équipe créative ou qui doit prendre des décisions, on retient généralement de 7 à 8 personnes, et au maximum 12. Dans certaines organisations, ces groupes s'élargissent au fil du temps. Chaque ajout, pris isolément, paraît justifié. Mais à l'échelle du groupe, on finit par créer une instance trop nombreuse pour fonctionner efficacement. Ajouter des personnes paraît toujours plus simple que de repenser l'organisation du travail. Pourtant, il y a un point où plus devient trop et la coordination prend le dessus sur la création de valeur. Avant d'ajouter une personne, la seule question qui compte, c'est qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? Est-ce le nombre qui bloque ou notre façon de travailler? C'était « Plus on est, mieux c'est ?» Pas toujours. Un texte de Marie-Chantal Ledoux paru le 28 avril 2026 dans La Presse.
Catherine McKenna tire à boulets rouges sur les dirigeants des pétrolières canadiennes. Un texte de Stéphane Blais de La Presse canadienne, paru le 21 avril 2026 dans Le Devoir. Des gras durs, proches de Donald Trump, qui nous prennent pour des imbéciles et qui font des profits faramineux avec la guerre en plus de nourrir la crise climatique, de mettre l'économie en péril et de demander des subventions. Voilà comment l'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, a décrit les dirigeants de l'industrie pétrolière canadienne dans une entrevue avec La Presse canadienne. Un autre ancien ministre, Stephen Guilbeault, a de son côté dénoncé le double discours et le manque de sérieux de ses dirigeants. En marge du sommet Climat Montréal, la presse canadienne a demandé à l'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, de réagir à l'inventaire officiel de gaz à effet de serre, GES, du Canada, publié en avril 2026. Celui-ci montre qu'encore une fois, en 2024, la production de pétrole et de gaz était le seul secteur industriel au pays à avoir augmenté ses émissions de GES. C'est révoltant, a lancé l'ex-ministre en ajoutant qu'au Canada, les Canadiens s'entendent à ce que tous fassent leur part, mais les compagnies pétrolières et gazières, majoritairement américaines, ne font pas leur part. Leur seule contribution consiste à augmenter nos émissions et à réclamer des subventions. Elle estime de plus que ces entreprises exigent que les contribuables canadiens paient la facture du nettoyage de la pollution qu'elles engendrent et de la construction d'oléoducs dans lesquels elles refusent d'investir leurs propres fonds. Le sentiment de mécontentement de celle qui a été députée fédérale de 2015 à 2021 contre les pétrolières et gazières canadiennes est profond et sa liste de doléances longue. Elles engrangent des profits colossaux grâce à la guerre illégale menée par la Russie contre l'Ukraine et maintenant grâce à la guerre contre l'Iran. Mais que font-elles de ces profits? Elles les redistribuent à des dirigeants gradures qui les reversent ensuite à leurs actionnaires majoritairement américains et partisans de Donald Trump, soit dit en passant. Les pétrolières et gazières sont la principale cause de la crise climatique. Elles pratiquent l'éco-blanchiment. Elles répandent de la désinformation. Et ensuite, elles exigent que les citoyens, qui paient déjà plus cher le pétrole et le gaz pour se déplacer et se chauffer, les subventionnent, a fustigé Catherine McKenna en ajoutant qu'elles nous prennent pour des imbéciles. Les chocs énergétiques accélèrent la transition énergétique des pays du monde entier vers les énergies renouvelables, moins chères et plus propres. Inquiète pour l'économie. Depuis 1990, la production des sables bitumineux a augmenté de plus de 900% au pays, selon l'inventaire officiel de gaz à effet de serre du Canada. Accroître la production de gaz et de pétrole année après année n'est pas la direction que le reste du monde prend. D'un point de vue environnemental, c'est absurde et d'un point de vue économique, encore plus, selon l'avocate et ancienne politicienne. Les chocs énergétiques, qui font référence au changement de prix soudain des énergies, provoqués par exemple par les guerres, accélère la transition énergétique des pays du monde entier vers les énergies renouvelables moins chères et plus propres, a souligné Catherine McKenna, qui dit s'inquiéter pour le Canada. Un récent rapport de l'International Renewable Energy Agency montre que les énergies renouvelables représentaient en 2025 85,6% de l'expansion totale des capacités électriques mondiales. Pourquoi ne pas inciter les gens à abandonner les énergies fossiles, à passer aux véhicules électriques, à moderniser leurs maisons? Pourquoi continuons-nous à nous chauffer au mazout et au gaz? À Halifax, on livre même du mazout à domicile alors qu'il existe des thermopompes. Pourquoi nos fournisseurs d'énergie ne nous permettent-ils pas, à nous, Canadiens, d'installer des panneaux solaires et d'être rémunérés pour cela? S'est interrogée l'ancienne ministre dans le gouvernement de Justin Trudeau. Les solutions existent et nous devons absolument aller de l'avant. Il ne s'agit pas tant d'accessibilité financière que de la compétitivité économique du Canada, aujourd'hui et demain, et bien sûr, d'un meilleur avenir pour nos enfants. Des profits faramineux grâce à la guerre. Lors de l'entretien avec la presse canadienne, Catherine McKenna a fait référence à une analyse publiée par le Centre canadien de politique alternative sur les récents profits réalisés par les pétrolières. Les entreprises canadiennes de cette industrie engrangent chaque jour 170 millions de dollars de profits supplémentaires grâce à la guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran, qui a fait grimper les prix mondiaux du pétrole de plus de 50%. Soutient l'analyse. Lors de son entretien avec la presse canadienne, Mme McKenna n'a pas précisé à quoi elle faisait référence lorsqu'elle a dit que les pétrolières canadiennes faisaient de l'éco-blanchiment et de la désinformation, mais celles-ci ont maintes fois été accusées de diffuser des informations trompeuses. Des chercheurs de l'Université d'Ottawa, de l'Université Rutger et de l'Université Carleton ont, par exemple, publié une recherche dans la revue scientifique Energy Research and Social Science en juin 2024 sur la façon dont l'Alliance Nouvelle Voie trompait le public avec ses prétentions environnementales. L'Alliance Nouvelle Voie, qui s'appelle désormais l'Alliance des Sables Bitumineux, est un consortium composé des entreprises Canadian Natural Resources, Suncor, Cenovus, l'Impérial et ConocoPhillips. Cette alliance fait la promotion, depuis des années, du projet Pathways, qui a pour objectif de rendre carboneutre la production des sables bitumineux d'ici 2050 en captant et en séquestrant le CO2. Lorsque j'étais ministre, ils avaient un discours qui disait qu'ils voulaient réduire et qu'ils voulaient faire leur part, mais dans les faits, on ne sentait pas de volonté, a indiqué un autre ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, à propos des dirigeants des entreprises des sables bitumineux. En marge du sommet Climat Montréal, Stephen Guilbeault a expliqué à la presse canadienne qu'il entend parler du projet Pathways depuis ses débuts en politique. Ce que l'on constate, 7 ans plus tard, et après que le fédéral, avec Chrystia Freeland comme ministre des Finances, et octroyer des crédits d'impôt pour la séquestration du carbone, c'est qu'ils ont investi plus en publicité pour parler de leur projet que dans la réalisation de ce projet-là. Alors moi, je constate un manque de sérieux, puis un double discours de la part des pétrolières sur cette question-là, a ajouté Stephen Guilbeault. La presse canadienne a sollicité une entrevue avec un représentant de l'Alliance des sables bitumineux afin de réagir aux propos de l'ancienne ministre McKenna et de l'inventaire des GES, mais au moment d'écrire cet article, l'agence n'avait pas obtenu de réponse. Le Canada a légèrement baissé ses émissions de GES en 2024 en produisant 685 mégatonnes d'équivalent CO2. De cette quantité, 208 mégatonnes proviennent de la production de pétrole et de gaz. Les transports, 151 MT, nourris par l'industrie du pétrole et du gaz, sont le deuxième secteur le plus polluant. C'était Catherine McKenna, tire à boulet rouge sur les dirigeants des pétrolières canadiennes. Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne, paru le 21 avril 2026 dans Le Devoir.